Staline et De Gaulle, le banquet. Alors que les Russes et les Britanniques se partagent l'Europe, le chef du gouvernement provisoire de la République française entreprend un mémorable voyage à Moscou. 3 mois après avoir descendu les Champs-Élysées sous les acclamations et célébré place de l'Hôtel de Ville le 25 août 1944, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le général de Gaulle s'envole vers l'Est, 1 mois après avoir effectué un tour de France des villes, Lyon, Marseille, Toulon, Toulouse, Orléans, Lille, Rouen, saigné par l'occupant allemand ou bombardé par l'aviation alliée comme le Havre. Charles de Gaulle est alors âgé de 54 ans. Les blindés du général Delattre n'entrent à Colmar que 2 mois plus tard et le territoire français n'est donc pas encore entièrement libéré. Mais les anglo-saxons mènent leur stratégie avec les soviétiques et s'apprêtent à traiter les Français comme des autochtones à administrer. Il s'agit donc de signifier aux alliés que la France est de retour sur la scène mondiale et qu'elle entend participer aux négociations de la fin de la guerre. Aussi, sans prévenir Churchill, le ministre britannique, De Gaulle entreprend-il un interminable périple en avion, puis en train, qui le mène via le Caire et Téhéran jusqu'à Moscou. Le survol de l'Allemagne étant encore impossible. Mais ce voyage est surtout pour le général de s'assurer que Staline n'encourage pas le Parti communiste français à prendre le pouvoir. Le 2 décembre 1944, à la tête d'une armée de commissaires du peuple et de généraux, c'est le ministre des Affaires étrangères, Molotov, qui attend le général de Gaulle à la gare de Moscou. Dehors, une foule nombreuse acclame le général. Le froid et la terreur gèlent néanmoins les corps et les esprits des habitants, muets et absorbés. Le général a demandé à loger à l'ambassade de France, plutôt que dans un palais qu'il s'est truffé de micros. Mais il y fait un froid polaire. Chaque jour, après avoir assisté à la messe à Saint-Louis des Français, la seule église encore ouverte dans la capitale soviétique, il monte au Mont des Moineaux d'où Napoléon a découvert l'invincible Moscou. Puis il se rend au Kremlin. Dans ce fastueux palais où le vin, la vodka, le caviar et nombre de mets raffinés sont servis en abondance aux dignitaires staliniens et à leurs invités, on tente de négocier un accord franco-russe. Très vite, De Gaulle découvre que le dictateur soviétique n'a qu'un objectif en le recevant. Faire cautionner par la France la mise en place en Pologne d'un gouvernement formé par Moscou, baptisé Comité de Lublin. Le maître du Kremlin souhaite en effet passer un accord séparé avec la France pour affaiblir Churchill et Roosevelt, tout en éprouvant les nerfs du général. Des textes lui sont ainsi soumis qui ne correspondent jamais à ce qui a été conclu à l'oral. On use tour à tour de la brutalité, de la ruse, de la cruauté, voire même ce qui pourrait passer pour de la folie. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle écrit « Staline était possédé par la volonté de puissance. Rompu par une vie de complot à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger, tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. » Ainsi, la première rencontre a lieu dans une immense pièce meublée d'une longue table. Qu'il parla ou non, poursuit le général, Staline, les yeux baissés, crayonnait des hiéroglyphes. Parfois, le dictateur fait mine de plaisanter. Ce doit être bien difficile de gouverner un pays comme la France, où tout le monde est si remuant. Dès les premières minutes, cependant, sa violence affleure. La France soutient-elle l'indépendance polonaise ? Lui n'en veut pas. La Pologne ayant servi de couloir aux Allemands pour attaquer la Russie, Staline exige que ce couloir soit fermé. Et de soudain interpeller son hôte. « Pourquoi prenez-vous la même position stérile de l'Amérique et l'Angleterre ? Nous attendons de vous que vous agissiez avec réalisme et dans le même sens que nous. » Et De Gaulle doit répondre que le gouvernement de la Pologne est l'affaire du peuple polonais, lequel doit pouvoir s'exprimer par le suffrage universel. Staline sourit doucement. De Gaulle refuse de souscrire à l'exigence de Staline. Jeudi 7 décembre, les négociations sont au point mort. Le général de Gaulle devant partir le dimanche matin 10 décembre, le grand dîner au Kremlin doit avoir lieu le samedi 9. Mais ce banquet, où l'on doit célébrer copieusement la résurrection de l'alliance franco-russe, le pacte franco-soviétique, est un véritable fiasco. Pour alléger l'atmosphère et masquer l'embarras des convives, on a invité l'ambassadeur d'Amérique, Avril Harman, et le chargé d'affaires du Royaume-Uni, Arthur Balfour, à prendre part à des agapes où l'on peut au moins lever son verre à la victoire des armées alliées. Le maréchal Staline affecte la jovialité et trinque avec sa bouteille de gros rouge du Caucase. Mais rien ne déride le général de Gaulle, qui dès 23h30, malgré l'insistance et les reproches de son hôte, quitte le Kremlin. À 4h du matin, le général de Gaulle, retourné à l'ambassade, veille auprès d'une grande flambée de sapins. L'ambassadeur lui tend alors une note sur laquelle il a rédigé une formule de compromis. De Gaulle griffonne en retour, sur un autre petit papier, quelques lignes et ajoute « Retournez au Kremlin, dites que ceci est mon dernier mot. S'il accepte cette formule telle quelle, nous pourrons signer le pacte d'alliance avant le départ de mon train. » Le nouveau texte ne diffère en rien du précédent. Ah, il est bien plus facile de s'entendre entre militaires, mais ces diplomates, il faudrait tous les pendre. Staline, un peu égaré par le champagne, oublie alors qu'il est lui-même un civil muet en militaire et que le chef du gouvernement français est un militaire muet en civil. À 6h30, tout le monde est de nouveau réuni au Kremlin. Après l'échange des signatures, un nouveau banquet matinal permet enfin de boire à l'Alliance franco-soviétique et de rendre hommage à la nation polonaise, affirmer de nouveau que celle-ci, en toute indépendance et dans sa pleine souveraineté, aura désormais en l'Union soviétique une amie et une alliée. 2 heures plus tard, le général de Gaulle quitte Moscou. Thank you. Le traité d'alliance qu'il emporte avec lui peut, si le Kremlin le veut, constituer une base solide pour la restauration d'une Europe pacifiée. Hélas, l'encre à peine séchée, le gouvernement soviétique tourne délibérément le dos à la France pour revenir à son incurable hantise d'une Pologne qu'il lui faut à tout prix bolcheviser, s'en faire une alliée et l'adresser en avant-garde contre l'Occident capitaliste. Un pacte n'est pas valable qu'à sens unique. Puisse Moscou entendre alors l'appel de tous les hommes de bonne volonté.
Russians love their children too.